Voici une question dont la réponse aidera tous ceux qui cherchent la vérité. Comment la Bible définit-elle un chrétien authentique? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, c'est incroyable tout ce qu'on reçoit en instruction dans le livre de l'Apocalypse. Et on n'en est rendu qu'au deuxième chapitre. Allons voir ensemble ce que ce livre de la Bible nous réserve aujourd'hui. Voici nos questions. Quel est l'antidote au poison de la corruption? Comment la Bible définit-elle un chrétien authentique? Est-ce que le Seigneur Jésus inspecte son Église aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut identifier un véritable chrétien? Qui est Jézabel? La Bible parle-t-elle de l'Église romaine? À quoi peuvent s'attendre les chrétiens qui persévère dans les voies de Dieu? Restez avec nous, nos réponses s'en viennent. C'est Dieu qui va nous les donner par sa parole, par la puissance de son esprit et par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, qui nous convainc que ta parole est la vérité, qui nous convainc quand on pêche de se tourner vers toi pour recevoir ton pardon. Merci de nous accueillir à bras ouverts avec ce pardon, mon Dieu. Touche nos cœurs par ta parole. Apprends-nous à marcher dans la sainteté, de te glorifier dans chaque jour de notre vie, dans chaque instant de notre vie. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que l'Église de Pergame avait péché dans une recherche exagérée de compromis avec le monde environnant. L'antidote au poison de la corruption. Chers amis, débutons notre lecture, Apocalypse chapitre 2, verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Face à cette volonté exagérée d'en arriver à des accommodements raisonnables, la solution de Dieu est très claire. « Repens-toi. » Le seul remède possible pour l'Église de Pergame est la repentance. Car le Dieu de jugement est également un Dieu d'amour et de pardon, comme on peut le voir dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si l'Église refuse de se repentir, le Seigneur les combattra avec l'épée de sa bouche, c'est-à-dire sa parole contenue dans la Bible. L'autorité de la Bible est donc réaffirmée au-dessus de toute autorité terrestre. L'Église fait erreur si elle pense pouvoir décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. La véritable Église est composée de croyants qui ont personnellement reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils forment ce que la Bible appelle le corps de Christ. Ils doivent être des lumières dans un monde de ténèbres, et pour y arriver, ils doivent prendre soin de s'identifier avec la personne de Jésus-Christ et de reconnaître, non pas une Église d'une quelconque dénomination, mais la parole de Dieu comme leur suprême autorité. Non coupable. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Cet appel s'adresse à tous les croyants de l'Église à travers les siècles. À celui qui vaincra. Ces quatre mots définissent l'authentique chrétien. Nous n'obtenons pas la victoire par nos propres forces, mais par le sang de l'agneau répandu pour nous sur la croix. La victoire sur le péché est celle de notre Seigneur Jésus-Christ et non pas la nôtre. Je donnerai de la manne cachée. Parle de la personne et de la mort de Jésus-Christ, tel que révélé dans la parole de Dieu. Jésus lui-même affirme qu'il est le pain de vie. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 32 à 35. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La manne donnée par Dieu à la nation d'Israël au temps de Moïse nourrissait le corps. Le pain de vie nourrit maintenant l'esprit de chaque membre de son Église. Nous avons besoin de ce pain pour grandir spirituellement. Mais cette manne est cachée pour ceux qui périssent. De nos jours, Jésus-Christ est mal connu et mal compris. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Un caillou blanc suggère que les gens ne vont pas au ciel par défaut, comme beaucoup le pensent. Les habitants d'Asie mineure, au temps de l'apôtre Jean, avaient pour coutume de donner à des amis une tessera, c'est-à-dire un cube ou un petit bloc rectangulaire en roc ou en ivoire avec des mots ou des symboles gravés sur les surfaces. Il s'agissait d'un objet secret et privé pour la personne qui le recevait. Dans une variation, la tessera hospitalis, où on y inscrivait le nom de deux personnes et chacune des deux obtenait alors un libre accès à la maison de l'autre. Personnellement, en accord avec le principe que la Bible s'interprète par elle-même, j'opterais plutôt pour la théorie du suffrage. Lisons Actes chapitre 26, verset 10. « J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Dans le texte grec original, le mot traduit ici par « suffrage » signifie également « caillou » pour la raison suivante. À cette époque, dans les cours de justice, le vote du jury était recueilli avec des cailloux. Un caillou noir établissait la culpabilité de l'accusé, tandis qu'un caillou blanc l'acquittait. Rappelons-nous ici que Jésus agit en tant qu'inspecteur et juge des églises. Le caillou blanc blanchit la personne concernée de tout soupçon. La lettre de Jésus-Christ à l'église de Thyatire. L'église de Thyatire représente une époque allant d'environ 590 jusqu'à 1516 après Jésus-Christ. Pendant ce temps, l'action insidieuse de l'Empire romain à l'intérieur de l'église commence à produire son effet. Il s'agit de l'époque historique du Moyen Âge. Lorsque vous quittez Pergame et que vous vous avancez à l'intérieur des terres, vous trouvez Thyatire et les trois dernières églises à qui Jésus-Christ a envoyé ses lettres par l'intermédiaire de l'apôtre Jean. Thyatire est également située à un endroit très pittoresque et d'une grande beauté. Thyatire est située à l'embouchure d'une longue vallée. Avec elle, Dieu a tracé une route d'accès facile pour le commerce et les voyageurs. Depuis les temps anciens, une des routes principales d'Asie mineure parcourt cette vallée. Nous avons donc une ville située dans une vallée. Dans l'Antiquité, la plupart des villes étaient soit bâties sur le bord de l'eau afin de faciliter le commerce par voie maritime, soit sur une colline ou une montagne afin d'en faciliter la défense. On y construisait des murs pour la protéger et une acropole. Thyatire était également bâtie pour se défendre, mais elle n'était pas construite sur des hauteurs. Elle est située au milieu d'une vallée en pente très douce. Sa force résidait dans le fait que l'Empire romain y avait installé sa garde d'élite. Thyatire a d'abord été construite par Lysimaque, un lieutenant d'Alexandre le Grand. Lysimaque a été tué par Séleucos, premier Nicator, le fondateur de la dynastie des Séleucides, dont la domination s'étendait jusqu'à l'Himalaya. Séleucos a poursuivi le projet de construction de la ville, débuté par Lysimaque. La ville a connu une ère de prospérité au premier siècle après Jésus-Christ sous l'empereur romain Vespasien. Plusieurs corporations professionnelles avaient leur siège social à Thyatire. Celle des potiers, des tanneurs, des tisserands, des teinturiers et des fabricants de vêtements. Elle était surtout le centre de l'industrie de la teinture. Lydia, la commerçante de pourpre, venait de Thyatire. On se rappelle qu'elle a été la première personne à se convertir au christianisme en Europe, lorsque l'apôtre Paul s'est rendu dans la ville de Philippe, comme on peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 14. La pourpre est une étoffe teinte de cette couleur d'un rouge très vif, très prisé dans l'Antiquité. Mais éventuellement, la ville a été complètement détruite. Aujourd'hui, les ruines visibles de Thyatire ne couvrent qu'une petite étendue de terrain. Passons au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Lorsque nous avons étudié la vision de l'apôtre Jean, nous avons vu qu'une des fonctions du souverain sacrificateur était d'inspecter le chandelier afin qu'il répande de la lumière et non de la fumée. Il devait tailler les mèches et même éteindre les lampes qui ne remplissaient pas leur fonction. Aujourd'hui encore, notre Seigneur Jésus-Christ fait la tournée des églises afin de les inspecter. Rien n'échappe à son regard pénétrant, qui est comparé ici à une flamme de feu. Ses pieds sont semblables à de l'airain ardent qui représente dans la Bible le jugement de Dieu. Il inspecte, évalue et juge son Église. 6 félicitations. Les résultats de cette investigation relèvent quelques bons points dans l'Église de Thyatire. Quant à l'époque correspondante de l'histoire de l'Église, on peut voir que, même affaibli par l'introduction de l'Empire romain dans ses rangs, l'ensemble de l'Église au temps du Moyen Âge compte plusieurs aspects positifs. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Notre Seigneur Jésus-Christ adresse 6 paroles de félicitations à l'Église de Thyatire et, par extension, à l'Église du Moyen Âge. Je connais tes œuvres, ton amour. On se rappelle de la distinction faite entre œuvre et travail lorsque nous avons étudié la lettre à l'église d'Éphèse. Ici, le ministère pour le Seigneur n'est pas considéré comme un fardeau ou une obligation, mais il est accompli avec amour. Plusieurs véritables croyants éprouvent alors un amour sincère pour la personne de Jésus-Christ, et cet amour se manifeste par des œuvres accomplies dans la joie. À vrai dire, ce genre d'œuvre identifie le véritable chrétien. Comme Jacques, chapitre 2, verset 18, l'exprime bien. « Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Comme nous l'avons souvent mentionné, l'enfant de Dieu n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais pour les bonnes œuvres. Les 6 paroles de félicitations sont donc, premièrement, les œuvres qui sont la carte de visite du véritable chrétien. Plusieurs vivaient une existence sans tache, et par leurs bonnes œuvres, paraient leur sainte doctrine d'or, d'argent et de pierres précieuses. Deuxièmement, l'amour. On trouvait dans cette église beaucoup d'amour, malgré la place de plus en plus grande occupée par les rituels. Plusieurs hommes de Dieu remarquables ont vécu à cette époque. Bernard de Clairvaux, Pierre Waldo, John Wycliffe, Jean Hus, Savanarole et Anselme faisaient tous partie de l'Église de cette époque. Bien sûr, certains d'entre eux, trop bruyants au goût de l'élite sacerdotale, ont fini leur vie sur le bûcher. Troisièmement, la foi. Bien qu'elle soit placée après les œuvres et l'amour dans ce passage, la foi est la source qui les alimente. Quatrièmement, le fidèle service. Nous n'avons donc pas ici quelques bonnes œuvres isolées, mais une attitude de serviteur, semblable à celle manifestée par Jésus-Christ lorsqu'il marchait parmi nous. Cinquièmement, la constance, c'est-à-dire une patiente persévérance à rester les yeux fixés sur le but de la sanctification malgré un parcours semé d'embûches. Le Moyen Âge n'était pas une époque facile. Sixièmement, les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Dans cette église, le nombre d'œuvres augmentait avec le temps. Ces six vertus sont bien entendu produites par le Saint-Esprit qui habite dans le cœur de chaque croyant. Les méfaits de Jézabel. Cependant, Jésus adresse à cette église une redoutable critique. Verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Tout comme Balaam avec l'église de Pergame, Jésus utilise un épisode de l'Ancien Testament pour illustrer sa remontrance envers l'église de Thyatire. Après la séparation de la nation d'Israël entre le royaume du Nord et le royaume de Juda, Jézabel a conduit le royaume du Nord au paganisme et à l'adoration des idoles. De toute évidence, on trouvait parmi les membres de l'église de Thyatire une femme reconnue en tant qu'enseignante ou prophétesse, mais qui en réalité reproduisait l'iniquité de Jézabel, la conjointe du roi Achab. Au sujet de la période historique du Moyen Âge, représentée par l'église de Thyatire, plusieurs pratiques païennes et idolâtres se sont mêlées à l'adoration de Jésus-Christ et aux œuvres chrétiennes. La papauté est devenue un pouvoir terrestre, sous Grégoire Ier, vers 590, et plus tard, sous Grégoire VII, mieux connu sous le nom d'Hildebrand, entre 1073 et 1085. L'introduction des rituels et de la doctrine ecclésiastique a alors supplanté la foi personnelle en Jésus-Christ. L'adoration de la Vierge Marie sur un pied d'égalité avec Jésus a commencé à faire partie intégrante de la messe. Le purgatoire est devenu une doctrine établie et on a commencé à réciter des messes pour les morts. Des faux documents comme la donation de Constantin et les décrets d'Isidore ont été produits afin de donner frauduleusement plus de pouvoir au pape. Tout comme Jézabel avait persécuté et assassiné les prophètes de l'Éternel, l'Église romaine a institué l'Inquisition pendant cette période. L'Église est également accusée de séduire les serviteurs de Jésus-Christ. Nous avons donc ici un éloignement radical de la doctrine ecclésiastique par rapport à la vérité de la Bible. Jézabel est donc la figure contraire de Lydia qui venait de Thyatire. Jézabel était en quelque sorte la précurseur de l'Église apostate, comme nous le verrons au chapitre 17. Pour l'instant, lisons Apocalypse chapitre 2, verset 21. « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Le Seigneur Jésus-Christ a fait preuve de patience envers Jézabel, tout comme il fait preuve de patience envers tous les pécheurs, comme il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 22. Voici. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il pourrait s'agir de persécutions passées ou futures. Dans sa recherche de pouvoir terrestre, l'Église romaine a parfois été confrontée au pouvoir séculier des nations et elle en a parfois souffert grandement. Il peut également s'agir de la grande tribulation à venir, à laquelle l'Église apostate sera confrontée, comme nous le verrons plus tard. Verset 23. « Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Les enfants sont ceux qui ont accepté le système de croyance provenant de la Rome impériale. « Je frapperai de mort ces enfants. » Cette phrase se traduit littéralement « Je tuerai de mort ces enfants. » Il s'agit de la deuxième mort. Car ceux qui acceptent le système de croyance romain vivent sous l'illusion qu'ils n'ont pas besoin de la grâce divine pour obtenir la vie éternelle. Ils pensent qu'ils peuvent mériter d'aller au ciel par leurs propres moyens, avec leurs bonnes œuvres. Et toutes les églises, c'est-à-dire toutes les dénominations d'églises chrétiennes à travers les siècles, l'Empire romain a semé ses faux enseignants et ses membres indignes dans toutes les dénominations d'églises chrétiennes. Par ailleurs, nous trouvons également des chrétiens sincères et consacrés dans toutes les dénominations, car... ce n'est pas le fait d'appartenir à une église qui sauve, mais le fait d'appartenir à Jésus-Christ, celui qui sonde les reins et les cœurs. Les reins sont souvent le siège du désir et des émotions. Le cœur est le siège de la volonté. Les deux ensemble forment ce qu'on pourrait appeler le profil psychologique d'une personne. Les pensées, les sentiments et les objectifs. Restez ferme jusqu'à mon retour. Verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le compte-rendu historique de Thyatire nous apprend que cette ville a connu une très brève existence. Et bien sûr, l'Église a succombé avec la cité lorsque cette dernière est tombée sous l'assaut des envahisseurs. Les profondeurs de Satan se réfèrent peut-être à une autre secte gnostique connue sous le nom de Phite. Ses adeptes vouaient un culte au serpent qui avait tenté Ève, car il lui avait fait découvrir le bien et le mal. Il parodiait les écrits de l'apôtre Paul. Toutes les hérésies se vantent de posséder des facultés spirituelles supérieures. Verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jésus-Christ annonce à l'avance à son Église qu'il reviendra bientôt la chercher. En attendant, elle devrait tenir ferme ce qu'elle a obtenu de lui. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Les œuvres de Jésus-Christ sont mises en contraste avec les œuvres de Jézabel, car ses premières œuvres sont le résultat de l'action du Saint-Esprit en nous. Nous sommes vainqueurs par la foi et non en cherchant à vaincre par nos propres efforts. Je donnerai autorité sur les nations. Là encore, l'Église ne doit pas chercher à acquérir par ses propres moyens un pouvoir terrestre. Ce pouvoir nous sera donné par l'autorité divine au temps où elle l'aura choisi. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Apocalypse chapitre 2 verset 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père. Nous avons ici une référence au temps du millénium, où les chrétiens seront toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce thème sera développé en détail à la fin du livre de l'Apocalypse. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Comme on peut voir, cette section des lettres aux églises contient plusieurs références à la fin du livre de l'Apocalypse. Le thème de l'étoile du matin est repris dans Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il annonce à l'avance qu'il reviendra pour chercher les siens lors de l'enlèvement de l'Église. En cela, nous mettons notre confiance, comme il est écrit dans Tite chapitre 2 verset 13, et je vous en fais lecture. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Chers amis, lisons notre dernier texte pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 2, le verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les enfants de Jézabel n'entendront pas, mais les véritables enfants de Dieu entendront, car le Saint-Esprit a ouvert leurs oreilles et leurs cœurs. Et toi, cher ami qui écoute cette émission, as-tu l'oreille et le cœur ouverts à la parole de Dieu? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 3, les versets 1 à 4. À vous tous, je vous souhaite bonne lecture.
Merci beaucoup, Régin. Mes amis, vous qui cherchez à connaître Dieu, vous qui cherchez à savoir ce qu'est un véritable chrétien, eh bien, je pense qu'après l'enseignement qu'on vient de recevoir, vous ne pourrez pas douter de l'authenticité d'un vrai chrétien. Et par le fait même, vous saurez comment en devenir un vous aussi, si vous ne l'êtes pas déjà. Permettez-moi de vous répéter rapidement ce qu'on peut voir chez un véritable croyant. Les œuvres, l'amour, la foi, le fidèle service, la constance, c'est-à-dire la persévérance, même dans les grosses épreuves, et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est vraiment bon. Pour ma part, mes amis, la première de ces choses que j'ai pu voir en la croyante qui m'a annoncé l'Évangile en 1977, c'était l'amour. J'avais cherché le véritable amour toute ma vie et voilà que le Seigneur Jésus me manifestait cet amour à travers sa fille. Une personne qui me connaissait à peine, mais qui a pris soin de moi en m'accueillant chez elle. À l'époque, je relevais d'une opération pour enlever une tumeur cancéreuse. J'étais anémique, sans compter que j'avais un sérieux problème de dépendance de la drogue. Mais quand j'arrivais chez cette dame, elle m'accueillait, m'amenait dans sa cour arrière où il y avait une piscine pour se rafraîchir, une tonnelle, du moins c'est ce qu'elle nommait ce genre de petite tente entourée de moustiquaires pour s'étendre à l'ombre quand il faisait trop chaud. Il y avait des chaises longues entourées de belles fleurs, toutes des choses que je n'avais pas à mon appartement à Outremont. Et c'était là, et aussi dans sa maison, qu'elle me partageait sa connaissance du Seigneur Jésus et de son plan pour sauver les pécheurs. Et je la regardais vivre, je voyais l'amour qu'elle donnait autour d'elle, à son mari, à ses deux fils, à ses voisins, et à moi qu'elle connaissait seulement depuis la mi-avril. À travers sa vie, et en l'entendant chanter l'amour de Dieu et partager ce qu'il disait dans sa parole au sujet de Jésus, Dieu fait homme, qui était venu sur cette terre pour mourir sur la croix afin de payer la dette de mes péchés, eh bien, j'ai cédé devant cet amour. J'ai réalisé que c'était cet amour que j'avais cherché toute ma vie. L'amour de Dieu, manifesté par le sacrifice de Jésus à la croix, et manifesté par une enfant de Dieu qui était un reflet de Jésus pour moi, dans la personne de Thérèse. Et le 6 août 1977 fut une date mémorable pour moi. C'était un beau samedi après-midi ensoleillé, et le soleil a enfin brillé dans mon cœur. Alors que je me suis reconnu coupable devant Dieu, que je me suis repenti, que j'ai décidé de changer de conduite et de me détourner du péché pour me tourner vers Jésus. Et quand j'ai dit « Seigneur, sauve-moi », en un clin d'œil, je suis né de nouveau. Je n'étais plus la même personne. Sans que quiconque ne me dise « Caro, tu dois maintenant t'éloigner du péché », j'ai personnellement décidé que c'en était fini avec mon amant, qui était un homme marié, marié à une autre femme, bien sûr. C'en était fini avec la drogue et les abus de boissons, avec le mensonge, avec les paroles grossières, et j'en passe. J'aurais trop honte pour tout vous dire. Mais gloire à Dieu, Dieu a tout effacé. Et ce cadeau, mon ami, il est pour toi aussi, ce cadeau de la vie éternelle. Je t'en supplie, fais ce que j'ai fait. Accepte Jésus comme ton sauveur. Accepte Jésus seul comme ton Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. Reçois le don gratuit de la vie éternelle. Reçois ce cadeau que ce maître doux et humble de cœur veut te donner maintenant.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui seront aidés.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.